Après tant de messages aussi forts et aussi beaux aussi, il est difficile de prendre la parole et j'ai aussi une certaine émotion parce qu'effectivement, la chose pour nous est très importante pour les raisons que j'essaierai de vous expliquer. Monsieur le représentant du maire de Paris, monsieur le représentant de madame la ministre de la Culture et de la Communication, mesdames, messieurs, chers amis aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amis là-dedans, c'est avec un grand honneur et un vif plaisir que j'ouvre les travaux de notre colloque consacré à Paris-Rome, trajectoire de deux capitales culturelles. Mes premiers mots seront pour exprimer la gratitude de l'association italique à M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui nous offre si généreusement l'hospitalité dans les magnifiques salons de l'Hôtel de Ville. Je suis d'autant plus reconnaissant que c'est la deuxième fois que nous sommes accueillis dans ces lieux, exactement ici, dans ce salon, où notre association avait déjà, en 2004, organisé un colloque et procédé à la remise de son prix annuel. J'associe à ces remerciements les fonctionnaires de la ville de Paris qui, au cours des mois passés, nous ont aidés à monter cet événement. Je tiens évidemment à remercier tout aussi vivement Madame Aurélie Filippetti et dont Monsieur Malinas vient de nous lire le message. Nous connaissons tous l'histoire familiale de Madame Filippetti, fille et petite-fille d'immigrés et de résistants italiens. Son message nous va droit au cœur par l'esprit si chaleureusement amical qu'il inspire. Il constitue pour notre association, qui a des grandes ambitions, mais des moyens très modestes, une haute reconnaissance du travail accompli, un très précieux encouragement à le poursuivre. Ce travail, il s'appuie sur un réseau d'éminentes personnalités qui ont accepté sans hésiter de prêter leur concours à notre projet. Je ne peux pas les mentionner toutes ici. Vous allez de toute façon les découvrir au fil du programme. Je dirais seulement que conformément au caractère pluridisciplinaire de notre association, Nous honorons de réunir des universitaires, des journalistes, des responsables politiques, des administrateurs, des cinéastes, des musiciens, des hommes de théâtre, qui ont tous le goût de l'échange et du dialogue et aspirent à redonner aux relations culturelles entre nos deux pays l'éclat et la vigueur qu'elles avaient, hélas, un peu perdues ces dernières années. Un remerciement tout particulier va aux intervenants qui sont venus spécialement d'Italie pour cette circonstance et dont certains ont un lien ancien avec Italique. J'ai évoqué tout à l'heure la modestie de nos ressources. Il est certain qu'Italique n'aurait pas été en mesure d'organiser une manifestation de cette envergure si elle n'avait bénéficié du soutien de donateurs publics et privés. Je remercie donc nos mécènes italiens, l'ENI, les Generali, le CEPS et la Fondazione Carlsberg. Côté français, l'École normale supérieure mérite absolument une mention particulière pour le précieux soutien logistique qu'elle nous a assuré. Enfin, je remercie les membres de l'association qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs compétences, ni leur influence pour faire de cette rencontre un succès. Ils nous ont aidés à réaliser cette manifestation à laquelle nous donnons une signification particulière pour deux raisons principales. La première concerne l'Association culturelle italique, association sans but lucratif, qu'un groupe d'intellectuels italiens, belges, espagnols ont fondé il y a 15 ans, ici à Paris, afin de créer un point de rencontre et de confrontation constante entre représentants des cultures néo-latines et d'entretenir aussi un dialogue avec les pays de la Méditerranée. Nous nous concevons comme un laboratoire où l'on cultive le doute, le goût de la compréhension des autres, où l'on s'interroge, où, tout en mettant en valeur nos patrimoines respectifs, l'on conceptualise nos différences et l'on réagit contre les stéréotypes, contre les préjugés, contre les contradictions qui perdurent dans les sociétés de nos pays. Nous savons bien que les mentalités sont des prisons de longue durée, pour utiliser une belle image du grand historien Fernand Braudel. Cette perspective générale a toutefois un axe privilégié, constitué par les rapports culturels entre la France et l'Italie. La plupart de nous a vécu et travaillé alternativement dans ces deux pays. Nous sommes donc des passeurs entre ces sociétés, ce qui, au niveau de notre association, s'est traduit au fil des années par une série de manifestations culturelles italo-françaises, ici à Paris et dans plusieurs villes italiennes. Nous célébrons donc cette année, par cette initiative, notre 15e année d'activité, et à cette occasion, nous avons pensé, grâce à l'hospitalité de M. Delanoë, de réunir dans la mairie de la ville où a son siège notre association des spécialistes, notamment français et italiens, en plusieurs secteurs disciplinaires, pour analyser les spécificités de l'évolution de la gestion de la politique culturelle à Paris et à Rome, dans deux capitales qui, depuis des siècles, jouent un rôle majeur dans la culture européenne, qui entretiennent depuis la Renaissance des relations artistiques et littéraires étroites et qui sont devenues deux pôles d'attraction mondiale. Mais il y a aussi une raison plus générale qui concerne la situation actuelle de crise socio-économique et, j'ajouterai, anthropologique, dans laquelle nos pays, comme bien d'autres, sont impliqués. Nous croyons que même et surtout dans ces conditions difficiles, la culture peut et doit jouer un rôle non négligeable. Elle peut nous aider, entre autres, à réagir à la simplification, à l'indifférence, à la confusion. Elle nous donne les moyens pour nous orienter dans les formations, dans la compréhension des difficultés existentielles qui nous travaillent, et donc pour nous suggérer la manière meilleure de leur faire face. Nous croyons que l'analyse comparative que les sciences humaines nous permettent d'effectuer, ainsi que la prise en compte de la dimension historique et psychologique des phénomènes, aide mieux à comprendre le monde qui nous entoure, donc à mieux réagir, à mieux s'adapter si possible. Nous vivons aujourd'hui dans une époque caractérisée par une globalité conditionnée par l'économie, où on assiste à une hypertrophie de la communication. Dans les médias règne la mise en spectacle de l'actualité. La prolifération des instruments de communication informatique a développé dans nos sociétés une sorte de bavardage continu et diffus, souvent ludique, qui confond plus qu'il n'informe, encourageant une homologation qui pénalise le sens critique et produit des changements dans la psychologie collective. Nous vivons désormais au rythme de l'immédiateté, de l'instant, dans une sorte de dictature de l'urgence. La rapidité qui nous entraîne empêche toute analyse profonde, toute contextualisation des phénomènes, toute mise en perspective. La nôtre est une époque où il me semble qu'en Occident, la superficialité, le cynisme, l'opportunisme, l'individualisme exaspéré ont tendance à l'emporter sur la cohésion sociale, sur l'idée de partage et de justice. Une époque où se creuse l'écart entre les paroles et les actes, où un capitalisme financier sauvage pousse à une marchandisation généralisée. La culture du profit, la pulsion prédatrice de la modernité, dénoncée déjà par Lévi-Strauss, prime sur toute considération éthique, humanitaire, et même sur les impératifs écologiques pour sauver la planète. À ce tableau, certes peu réjouissant, j'ajouterai un autre élément de portée générale. Le phénomène mondial de la globalisation semble nous transformer en consommateurs standardisés de produits standardisés. Il nous frappe d'amnésie, efface le passé. Il semble nous faire oublier la conscience des échecs douloureux et des victoires qui traversent l'histoire. Le poids des cultures qui nous ont formés, les spécificités qui nous caractérisent, les systèmes symboliques de nos sociétés, les traces de notre mémoire. À la perte de conscience de notre passé s'ajoute un manque de perspective sur l'avenir. Notre regard rivé sur le quotidien est, en fin de compte, myope. Dans ce cadre complexe et contradictoire que les intellectuels, tout particulièrement, doivent prendre en compte de façon lucide, il peut y avoir toutefois des situations, des phénomènes, des confrontations, des moments historiques qui, bien analysés, offrent des perspectives non conventionnelles et moins négatives, utiles à mieux vivre notre présent frénétique. C'est peut-être le cas du thème de notre rencontre. Nous voilà donc à Paris-Rome. Il n'est pas inutile, en effet, de s'arrêter sur les différentes trajectoires au cours du XXe siècle de deux capitales qui sont un gisement complexe d'images littéraires, artistiques et cinématographiques, dont l'histoire est dialectiquement entremêlée. La ville-lumière et la ville-éternelle ont certes un statut particulier dans l'imaginaire collectif, mais concentrent aussi les expériences, les souvenirs, les émotions dont est émaillée la vie d'un grand nombre d'entre nous. Nous allons donc reprendre une opération de repérage des variantes et des constantes culturelles entre deux pôles urbains majeurs, grâce évidemment aux compétences des spécialistes des différentes disciplines qui ont accepté notre invitation. À conclusion du dialogue, il y aura la 13e édition du prix Italic qui récompensera l'ouvrage d'un auteur français consacré à un aspect de la culture italienne. Cette rencontre Paris-Rome n'est pas une aventure totalement inédite pour Italic. La confrontation des richesses culturelles et artistiques de certaines villes des deux côtés des Alpes, de leur spécificité sociale, constitue une caractéristique de notre association. Déjà, en l'an 2000, grâce à la généreuse collaboration du maire Orlando, nous avons organisé un colloque à Palerme, la plus méridionale des grandes villes italiennes et, par son histoire, le cœur symbolique de la Méditerranée. Le thème de ce colloque a été Paris-Palerme, deux capitales culturelles entre le XVIIe et le XXe siècle. Et je vous montre ici le volume des actes, 500 pages de ce colloque, et ce volume, vous pouvez le trouver là. Cette confrontation a permis de mettre en lumière la profonde francophilie qui caractérisait la vie de la bourgeoisie et de la noblesse palermitaine depuis l'âge des Lumières, ainsi que les nombreuses collaborations avec Paris dans le domaine du droit, des mathématiques, des sciences, de la littérature, ainsi que les plusieurs écrivains et savants français qui sont allés dans l'île ou des Siciliens à Paris. Le volume des actes que je vous ai montré constitue un document analytique important d'un pan un peu oublié de l'histoire des relations entre nos deux pays, des pulsions, des rêveries, des tropismes qui les ont habités. Nous renouons donc aujourd'hui avec le thème d'une confrontation bilatérale qui, en quelque sorte, fait partie du ADN d'Italic. Cette fois-ci, la période prise en compte est limitée au XXe siècle et au début du XXIe, une époque qui, dans les deux capitales, est caractérisée par des phénomènes culturels et artistiques qui ont marqué la modernité, mise en évidence ses difficultés, ses contradictions. D'ouverture, je me limite à rappeler un événement oublié d'il y a tout juste un siècle, qui symbolise le début d'une nouvelle époque de croisement artistique et culturel entre les deux villes. Il y a 100 ans, l'éditeur Fasquelle publiait à Paris un roman de 450 pages intitulé « Les Transplantés » qui avait comme sous-titre « Paris, la ville, visage du monde ». Paris, la ville, visage du monde. L'auteur était Ricciotto Canudo. Il s'agissait d'un jeune lettré italien qui était parti de Rome en 1901 et émigré à Paris, où il vécut une vie tumultueuse jusqu'à sa mort en 1923, faisant de la France son pays d'élection. Son roman, qui avait été candidat au prix Goncourt en 1913, était en grande partie inspiré par sa vie parisienne et brossait un tableau des milieux littéraires et artistiques largement internationaux de la capitale française au début du siècle, à une époque quand Paris était, selon ses mots, et je cite, « cerveau, cœur et sexe du monde moderne, ivre de son perpétuel renouvellement. » Ces milieux, Canudo les fréquenta activement pendant toute son existence, au point de devenir un personnage public, haut en couleur, reçu dans les salons de tout Paris et, à la fin de sa vie, entouré d'une légende. C'est à Paris qu'il fonda les revues Montjoie et la Gazette des Sept Arts, c'est-à-dire qu'il devint un pionnier de l'esthétique cinématographique et qu'il inaugura, à partir de 1906, des lectures sur Dante, ici à Paris, sous les auspices de l'association Dante Alighieri. Je cite cet écrivain oublié, car son récit, qui mériterait une analyse approfondie, tout autant que certains choix de sa vie, ont une valeur emblématique, même à l'heure actuelle, dans la perspective de notre rencontre. La ville au bord de la Seine qu'il décrit n'est plus le sombre Paris vieillard laborieux dont parlait un demi-siècle plus tôt Baudelaire, mais au contraire était un immense laboratoire de technologie moderne et un grand foyer international de tous les arts. Un lieu où, dans les cafés de Montmartre, de Montparnasse, dans les passages ou dans les phalanstères d'artistes, on pouvait rencontrer, entre autres, Picasso, Apollinaire, Modigliani, Blasco Ibáñez, le poète Gabriel D'Annunzio, Maurice Ravel, Marinetti, le sculpteur Bourdel, Ardengo Sofici, Blaise Andrard. Et je ne cite que le peintre, les écrivains, les sculpteurs, les musiciens, avec lesquels Canudo eut des rapports et qui parfois ont parlé de lui, partisan visionnaire de toutes les avant-gardes, qui naissait et se développait dans ce, je recite, immense creuset du monde moderne, divinité moderne, Paris. Ce cadre stimulant dont il perçoit et décrit aussi les côtés obscurs, devint les lieux où, parti de Rome, il voulut, comme le héros de son roman, se transplanter et vivre une nouvelle vie. Lui, qui appartenait à la génération des Italiens voués à l'exode, utilise le terme « transplanter » au lieu d'émigrer ou de déraciner. Paris, rêver était devenu le lieu de sa réalisation humaine et artistique, sa patrie. Le français était devenu sa langue d'élection, de polygraphe inépuisable. Paris était pour lui le lieu aussi où l'urbanisme moderne, l'art, la musique, la mode, le théâtre, la littérature, le journalisme, les progrès industriels, tout autant que l'art de vivre, le passionnait énormément. Certes, la Rome du début du siècle, sublime squelette, selon une image de Canudo, n'était plus comme à la Renaissance, la capitale de l'humanisme européen. La situation politique était compliquée. Le climat culturel et religieux obscurantiste qui avait instauré la papauté, n'était favorable à aucune forme d'ouverture, d'expérimentation. Les encycliques de 1901 et de 1907 étouffaient de façon radicale et violente la philosophie et la science moderne, considérées comme des hérésies du nouveau siècle. Elle condamnait le mouvement du modernisme qui aspirait à un renouveau de l'Église et qui s'y réclamait du théologien Antonio Rosmini, de Maurice Blondel, d'Alfred Loisy, tous philosophes catholiques ouverts à une réforme spirituelle et sociale. Une partie des écrits de Rosmini fut condamné par le Saint-Siège en 1887, Loisy fut excommunié en 1908, le pape Pie X en 1910, imposa aux prêtres un serment antimoderniste. Ce n'est pas fini. Au Vatican, le prêtre Umberto Benigni, qui successivement adhéra au fascisme, qui se déclara antisémite et qui devint un indicateur de la police mussolinienne, fonda un Sodalitium Plenum, un conseil secret dans le Vatican chargé de dénoncer les personnes suspectes de modernisme. En 1905, le roman Il Santo d'Antonio Fogazzaro fut mis à l'index. À cette époque-là, l'historien du christianisme Ernesto Bonaiuti, prêtre à Rome, fut chassé à son tour de l'église et ensuite de l'université parce que ce fut un des 11 qui ne voulut pas signer l'adhésion au fascisme. Rome, malgré ce climat obscurantiste, gardait cependant pour les étrangers la fascination qui lui est née de son passé historique, des ruines imposantes de l'Empire romain, de son urbanisme composite, portant les traces d'une superposition de civilisations. Rome, ville palimpseste, n'était pas le squelette dont parlait Canudo. En outre, elle ne résumait pas la variété des réalisations artistiques et culturelles dont étaient riches les autres villes italiennes, les nombreuses petites capitales historiques de la péninsule. L'Italie de ce début du siècle était certes un pays agricole, en grande majorité pauvre et peu cultivé, mais en profonde mutation sociale et économique, grâce à l'industrialisation des régions du Nord. Et elle était aussi un foyer littéraire, artistique, philosophique et historique très actif. Cette dynamique culturelle d'élite s'exprimait en particulier à travers une quantité énorme de revues importantes, je ne les cite pas, la plupart de ces revues étaient publiées à Florence et réalisèrent des structures remarquables de contacts, de débats et de diffusion culturelle et politique au niveau national. Elles étaient idéologiquement multiformes et exprimaient une grande vitalité culturelle. À l'époque où, à Paris, un groupe d'écrivains autour d'André Gide et de Jacques Rivière fondait la Nouvelle Revue Française, qui avait au contraire une orientation plus strictement littéraire, très peu idéologique. Les maisons d'édition localisées dans les principales villes jouaient aussi un rôle majeur dans les différents domaines. Il faut aussi rappeler qu'il y a des écrivains comme D'Annunzio, Pirandello, Svevo, qui avaient acquis une renommée internationale et qui souvent circulaient en France. Il ne faut pas oublier, en conclusion, que le tropisme nordique de Canudo se réalisa grâce à la rencontre à Rome d'un peintre parisien qui avait fait le choix inverse et séjourné dans la ville éternelle, comme l'avaient déjà fait plusieurs artistes français avant lui. Donc la perspective du croisement est confirmée. Certes, Rome, dans le siècle que nous sépare de Canudo, a changé beaucoup. Paris aussi. Cependant, sous des formes différentes, certains problèmes socioculturels demeurent. Les spécialistes invités nous feront état des résistances et des changements. La mémoire, la mise en perspective, la confrontation sont utiles. Tout événement devient lieu de la mémoire quand il échappe à l'oubli, quand on s'en rappelle. Le passé et le présent nous parlent. Prenons le temps de les écouter et de les comprendre. Nous savons bien que le sommeil de la raison produit des monstres. Je renouvelle mes remerciements à tout le monde et je donne de nouveau mes pensées de bienvenue à tous. Merci.